Chapitre 3. Ceci est tout bonnement sublime, reprit le médecin. Mais je crois que si les actions des paysans sont si complètes, si simplement belles, c'est que chez eux, tout est naturel et sans art. Ils obéissent toujours aux cris de la nature, leurs ruses même, leurs astuces, si célèbres et si formidables, sont un développement de l'instinct humain. Ils sont côteleux dans les affaires et dissimulés comme tous les gens faibles en présence d'un ennemi puissant et ne faisant pas abus de la pensée, ils la trouvent comme la foi, très robuste dans leur arme au moment où ils en font usage. La foi du charbonnier est un proverbe. Mais ce qui m'étonne le plus en eux, ajouta-t-il, c'est leur détachement de la vie, et je ne comprends pas qu'en estimant si peu une existence si chargée de peine et de travail, ils soient si peu vindicatifs, et ne la risquent pas plus souvent par calcul. Ils n'ont pas le temps peut-être de réfléchir, ou de combiner de grandes choses. Oui, mais c'est ce qui sauve la civilisation de leurs entreprises, dit quelqu'un. Encore la civilisation, répéta le médecin d'un air comi-tragique. « Mais, docteur, lui dis-je, je vous assure que je connais un petit pays de Touraine où les gens de la campagne font mentir vos observations. Du côté de Chinon, les naturels de notre pays sont possédés d'une fureur courte et vive qui leur donne l'énergie de se livrer à leur passion, puis ils rentrent soudain dans cette douceur spirituelle et railleuse qui distingue le caractère tourangeau. Serait-ce que Caïn aurait peuplé les environs de Chinon, dont les habitants sont nommés Caïnones, dans les cartulaires, ou faut-il attribuer ce sentiment de vengeance immédiate à la vie sauvage que mènent les habitants des campagnes? Le docteur Galli aurait bien vu venir visiter le Chinonais, où du reste il y a de fort honnêtes gens. Un des avocats les plus distingués de ce pays me disait en temps, en riant, que cet arrondissement devait lui constituer une rente parce que la plupart des procès civils et criminels étaient issus de ce pays si célébré par Rabelais. Quant à moi, j'ai vu de mes yeux un exemple frappant de cette observation dont je ne voudrais pas cependant garantir la vérité psychologique. Bon, voici le fait. Je revenais en 1810 d'Alzay-Arido à Tours par la voiture de Chinon. En prenant ma place, je vis sur la banquette de derrière deux gendarmes, entre lesquels était un gars d'environ 22 ans. « Qu'a-t-il donc fait, celui-là » dis-je au brigadier, croyant qu'il s'agissait de quelque délit forestier ou autre. « Oh, presque rien, » répondit le gendarme. Il s'est permis de rompre avec une barre de fer l'échine de son maître et il l'a tué, pas plus tard qu'hier. Là-dessus, grand silence. Je voyageais en compagnie d'un assassin. Celui-ci se tenait quoi dans la carriole, regardant avec assez d'insouciance les arbres du chemin, qui fuyaient avec autant de rapidité que sa vie promise à l'échafaud. Il avait une figure douce, quoique brune et fortement colorée. « Et pourquoi a-t-il assommé son maître ? » dis-je au brigadier. « Pour une misère, » répondit le gendarme. En allant à la foire de Tours, son bourgeois, qui était un fort métayer, avait promis de rapporter les cadeaux d'usage à la fille de basse-cour et à ce gars-là. Pour l'or, il s'agissait d'un tablier pour elle et d'un gilet rouge pour lui. Au retour, il paraît que le fermier eut quelques motifs de mécontentement contre lui, et il donna bien le tablier à la fille, mais il garda le gilet. Assoupi par la chaleur et fatigué, vu qu'il avait fait la route sans arrêt à cheval, il s'endormit sur le coin de sa table dans la salle. Alors le gars prit le bar de fer et lui en asséna un grand coup sur la nuque. Le métayer a encore eu la force de se relever et de lui dire « Malheureux !» Et il lui a donné un second coup qui finalement l'a tué raide. Et après, il a été se cacher dans l'écurie avec le gilet, mais il n'a pas seulement pris un liard de l'argent que son maître rapportait le tour, et il s'est laissé empoigner sans résistance. « Mais comment, lui dis-je en me tournant vers le paysan, as-tu pu tuer un homme pour un gilet ?»« Dame, j'avais compté là-dessus pour aller à la danse. » Ce fut tout ce que je tirai de ce garçon, qui ne paraissait point méchant du tout. Les gendarmes ne lui avaient seulement pas lié les mains. La voiture vint à verser au-dessus de Bellon. Mais non, non, elle ne versa pas, l'un des brancards s'était cassé. Nous en sortîmes tous. Les gendarmes se mirent de chaque côté de ce malheureux, en le laissant libre, mais néanmoins ils avaient l'œil sur lui. Ce gaillard-là, voyant le conducteur s'y prendre assez mal pour relever la patache, l'aida, lia lui-même une perche pour remplacer le brancard, et quand tout fut fini, « Ah, ça ira, maintenant, dit-il en achevant de serrer le dernier nœud d'une corde. » Et il remonta dans cette voiture qui le menait, pour ainsi dire, au supplice. Il fut exécuté à Tours. « Bah, ce sang-froid n'a rien de bien extraordinaire, dit un jeune homme qui était venu du salon de jeu. Au milieu de ma narration, il n'avait pas assisté aux prémices de mon argumentation. » Il existe une foule d'anecdotes sur les derniers moments des criminels. Et si je vous cite à ce propos un fait de ce genre, bien autrement curieux, c'est parce que je le crois peu connu, je l'ai entendu raconter à l'auteur des Souvenirs de la Révolution. Le syndic du tribunal de Brest se nommait Vigne, et le président Vigneron. Ils furent condamnés à mort. En se trouvant sur l'échafaud, l'un d'eux, M. Vigne, dit à l'autre en lui montrant la foule, « Ils vont se trouver bien embarrassés sans Vigne ni Vigneron. » M. Vigne passa le premier, mais au moment où le couteau lui tranchait la tête, les deux montants de la guillotine se désunirent. Enfin, il se dérangea quelque chose dans l'instrument du supplice, et comme il était fort tard, l'exécuteur des œuvres républicaines dit au président « Ma foi, monsieur, vous voilà sauvé, car c'est quelque chose que 24 heures par ce temps-ci. » « Il faut que tu sois un grand lâche, » répondit monsieur Vigneron. « Comment, parce que les planches ont un peu joué, tu vas me faire attendre ? Oh, le jugement ne m'a pas condamné à vivre 24 heures de plus. » Il prit lui-même le marteau, les clous et raccommoda la guillotine. Puis quand il fut jugé solide, il se coucha sur la planche et fut exécuté. C'est autre chose que de mettre une perche à un brancard, et c'est du sang froid, argent comptant. « Docteur, dit une dame, vous qui devez avoir beaucoup de mourants, avez-vous rencontré souvent des exemples de cette singulière tranquillité ?» « Madame, dit-il, les criminels sont ordinairement des gens doués d'une organisation très puissante, en sorte qu'ils ont plus de chances que les malades affaiblis par de longues agonies pour dire de jolies choses. On les tue vivants, tandis que les malades meurent tués. Puis, chez certains hommes, l'âme est fortement excitée par l'attente du supplice, et ils rassemblent toutes leurs forces pour soutenir cet assaut. Il y a exaltation. Oh, cependant, j'ai vu de belles morts particulières. Pour moi, la plus belle a été celle de la femme d'un célèbre médecin allemand auquel j'étais fort attaché. Le tableau que cette scène nous offrit est toujours vif et coloré comme au moment où j'en fus témoin. Nous avions passé la nuit au chevet de la mourante, elle était attaquée de la poitrine, et la pulmonie, arrivée au dernier degré, ne laissait aucun espoir. Mon maître s'était endormi, sa femme, s'étant réveillée vers 4 heures du matin, me fit de la manière la plus touchante et en souriant un signe amical pour me dire de la laisser reposer. Et cependant, elle allait mourir. Elle était arrivée à une maigreur extraordinaire, mais son visage avait conservé ses traits, ses formes, qui étaient belles. Sa pâleur faisait ressembler sa peau à de la porcelaine derrière laquelle il y a une lumière. Ses yeux vifs et ses couleurs tranchaient sur ce teint plein d'une molle élégance, et il y avait dans sa physionomie une sorte de sublimité qui imposait. Elle paraissait plaindre son mari, auquel sa vie avait été vouée, mais ce sentiment prenait sa source dans une tendresse élevée qui semblait ne plus connaître de bornes aux approches de la mort. Le silence était profond. La chambre, doucement éclairée par une lampe, avait l'aspect de toutes les chambres de malades au moment de la mort. C'était un désordre pittoresque. En ce moment, la pendule sonna, et le docteur, au désespoir d'avoir dormi, se réveilla. Je ne vis pas le geste d'impatience par lequel il peignit le regret qu'il éprouvait d'avoir perdu de vue sa femme pendant un des derniers moments qui lui étaient accordés, mais il est sûr qu'une personne autre que la mourante aurait pu s'y tromper. Ce médecin, homme d'un grand talent, avait mille de ces bizarreries apparentes qui font prendre les gens de génie pour des fous, mais dont l'explication se trouve dans la nature exquise et les exigences de leur esprit. Il vint se mettre dans un fauteuil près du lit de sa femme et la regarda fixement. Alors elle avança un peu la main, prit celle de son mari, la serra faiblement, et d'une voix douce mais émue, elle lui dit « Mon pauvre ami, qui donc maintenant te comprendra ?» Puis elle mourut en le regardant. « Les histoires que conte le docteur, reprit une dame après un moment de silence, me font des impressions bien profondes. » Le médecin salua gravement. « Oui, elles sont douces et intéressantes. Il nous émeut sans employer les atrocités si fort à la mode aujourd'hui. » « Ma réserve, dit-il, n'est certes pas de la puissance, et je vous prie de croire, madame, que j'ai ma provision d'horrible tout comme un autre. » « Eh bien, s'écria la maîtresse de la maison, racontez-nous un peu quelque chose d'affreux. Je voudrais voir la couleur de votre tragique, ce ne serait que pour le comparer avec celui qui a présentement cours à la bourse littéraire. » « Malheureusement, madame, je ne parle que de ce que j'ai vu. » « Eh bien, mais je dois avoir le dessous avec les gens qui ont sur moi tous les avantages que donne l'imagination. » Je ne puis pas vous mettre en scène deux frères nageant en pleine mer et se disputant une planche, ou un homme qui a entrepris de manger un régiment à la croque au sel. Je ne puis être que vrai. Eh bien, nous nous contenterons de la vérité. Oh, je ne veux pas me faire prier, dit-il. Et il se moucha. Le hasard, dit-il, me mit autrefois en relation avec un homme qui avait roulé dans les années de Napoléon et dont alors la position était assez brillante pour un militaire de son grade. Il était capitaine et occupait à l'état-major de Paris, je crois, une place qui lui valait de 4 à 5 000 francs. En outre, il possédait quelques fortunes. Où l'avait-il prise? Oh, je ne sais. Il était de basse extraction, et pour n'avoir pas d'avancement sous l'Empire, il fallait être un traînard, un niais, un ignorant ou un lâche. Cependant, il y a aussi des gens malheureux. Mon homme n'était rien de tout cela. C'était le type des mauvais soudards, débauchés, buveurs, fumeurs, vantards, pleins d'amour-propre, voulant primer partout, ne trouvant d'inférieur que dans la mauvaise compagnie, et si plaisant, racontant ses exploits à tous ceux qui ne savaient pas si une demi-lune est quelquefois entière, enfin, un vrai chenapan, comme il s'en était rencontré dans les armées. Ne croyant ni à Dieu ni au diable, bref, pour achever de vous le peindre, il suffira de vous dire ce qui m'arriva un jour que je l'avais rencontré du côté de la Bastille. Nous allions l'un et l'autre au palais royal. Nous cheminâmes par les boulevards, et au premier estaminet qui se trouva. « Permettez-moi, dit-il, d'entrer là un petit moment, j'ai un restant de tabac à y prendre et un verre d'eau de vie. » Il avala le petit verre d'eau de vie et reprit en effet une pipe chargée et un peu de tabac à lui. Au second estaminet, il avait achevé de fumer son restant de tabac et recommença son antienne. Ce diable d'homme avait des restants de tabac dans tous les estaminets, et c'était comme autant de relais pour des pipes et son gosier. Il avait établi dans Paris ses lignes de communication. Je ne vous parlerai pas de ses moustaches grises, de ses vêtements caractéristiques, de son idiome et de ses tics. Ce serait vous en entretenir jusqu'à demain. Mais je crois qu'il ne s'était pas mépeigné les cheveux qu'avec les cinq doigts de la main. J'ai toujours vu à son col de chemise la même teinte blonde. Eh bien, cet homme-là, ce chenapan, avait une assez belle figure, figure militaire, de grands traits, une expression de calme. Mais j'ai toujours cru lire au fond de ses yeux verts de mer et tachetés de points orangés quelques-unes de ces aventures où il y a de la fange et du sang. Ses mains ressemblaient à des éclenches. Il était d'une taille médiocre, mais large des épaules et de la poitrine, un vrai corsaire. Par-dessus tout cela, il se disait un des vainqueurs de la Bastille. Cet homme rencontra une jeune fille assez folle pour s'amouracher de lui. C'était une grisette, mais un amour de feu. Elle avait nom Clarisse et travaillait chez une fleuriste. Elle avait tout joli, la taille, les pieds, les cheveux, les mains, les formes, les manières. Son teint était blanc, sa peau satinée. Il n'y a vraiment qu'à Paris que se trouvent ces espèces de produits et ces sortes de passions. Jamais je n'ai vu de contraste aussi tranché que l'opposition présentée par ce singulier couple. Clarisse était toujours mignonne, propre et bien mise. Par amour propre, le capitaine lui donnait tout ce qu'elle lui demandait, et la pauvre enfant lui demandait peu de choses. C'était la partie de spectacle, quelques robes, des bijoux. Jamais elle ne voulut être épousée. Et s'il la logea, s'il meubla son appartement, ce fut par vanité. Cette jeune fille était le dévouement même. J'ai souvent pensé que ces pauvres créatures obéissent à je ne sais quelle charitable mission en se donnant à ces hommes si rebutants, si rebutés au mauvais sujet. Il y a dans ces actes du cœur un phénomène qui serait intéressant d'analyser. Clarisse tomba malade, elle eut une fièvre putride à laquelle se mêlèrent de graves accidents, et le cerveau fut entrepris. Le capitaine vint me chercher. Je trouvai Clarisse en danger de mort, et prenant son protecteur à part, je lui fis part de mes craintes. « Il faut, lui dis-je, avoir une bonne garde malade, au plus tôt, car cette nuit sera très critique. » En effet, j'avais ordonné de mettre à une certaine heure des sinapismes aux pieds, puis d'appliquer une demi-heure après l'effet du topique de la glace sur la tête, et lorsqu'elle serait fondue, de placer un cataplasme sur l'estomac. Il y avait d'autres prescriptions dont je ne me souviens plus. « Oh !» me répondit-il, « ne me fierai point à une garde, elle dort, elle fait les 100 coups, tourmente les malades. » Je veillerai moi-même et j'exécuterai vos ordonnances comme si c'était une consigne. À 8 heures du matin, je revins fort inquiet de Clarisse. Mais en ouvrant la porte, je fus suffoqué par les nuages de fumée de tabac qui s'exhalèrent. Et au milieu de cette atmosphère brumeuse, je vis à peine, à la lueur de 2 chandelles, mon homme fumant sa pipe et achevant un énorme bol de punch. Non, je n'oublierai jamais ce spectacle. Auprès de lui, Clarisse râlait et se tordait. Il la regardait tranquillement. Il avait consciencieusement appliqué les sinapismes, la glace, les cataplasmes, mais aussi le misérable en faisant son office de garde-malade, trouvant Clarisse admirablement belle dans l'agonie, avait sans doute voulu lui dire adieu, du moins le désordre du lit me fit comprendre les événements de la nuit. Je m'enfuis, saisi d'horreur. Clarisse mourait. L'horrible vrai est toujours plus horrible encore, dit le sculpteur. Il y a de quoi frémir quand on songe au malheur, aux crimes qui sont commis à l'armée, à la suite des batailles, quand la méchanceté de tant de caractères méchants peut se déployer impunément, reprit une dame. Oh ! Dit un officier qui n'avait pas encore parlé de la soirée. Les scènes de la vie militaire pourraient fournir des milliers de drames. Pour ma part, je connais 100 aventures plus curieuses les unes que les autres, mais en m'en tenant à ce qui m'est personnel, voici ce qui m'est arrivé. Il se leva, se mit devant nous au milieu de la cheminée et commença ainsi. C'était vers la fin d'octobre. Ah, oh, mais non, ma foi, c'était bien dans les premiers jours de novembre 1809. Je fus détaché d'un corps d'armée qui revenait en France pour aller dans les gorges du Tyrol bavarois. En ce moment, nous avions à soumettre pour le compte du roi de Bavière, notre allié, cette partie de ces États que l'Autriche avait réussi à révolutionner. Le général Châtelet s'avançait même avec un ou deux régiments allemands dans le dessein d'appuyer les insurgés qui étaient tout genre de la campagne. Cette petite expédition avait été confiée par l'empereur à un certain général d'infanterie nommé Ruska, qui se trouvait alors à Klagenfurt, à la tête d'une avant-garde d'environ 4000 hommes. Comme Ruska était sans artillerie, le maréchal Marmont avait donné l'ordre de lui envoyer une batterie et je fus désigné pour la commander. C'était la première fois depuis ma promotion au grade de lieutenant que je me voyais, au milieu d'une brigade, le seul officier de mon corps ayant à conduire des hommes qui n'obéissaient qu'à moi et obligé de m'entendre comme chef d'une arme avec un officier général. « C'est beau, me dis-je en moi-même. Il y a un commencement à tout, et c'est comme cela qu'on devient général. Vous allez avec Ruska, me dit mon capitaine. Prenez garde à vous. Oh, c'est un malin singe, un vaurien fini. Son plus grand plaisir est de mettre dedans tous ceux qui ont affaire à lui. Pour vous apprendre ce que c'est que ce chrétien-là, il suffira peut-être de vous dire qu'il s'est amusé dernièrement à baptiser du vin blanc avec de l'eau de vie, afin de renvoyer à l'empereur un aide-de-camp sous comme une grive. Et si vous vous comportez de manière à éviter ces algarades, vous en ferez un ennemi mortel. Voilà le pèlerin, ainsi attention !»« Eh bien, répliquai-je à mon capitaine, nous nous amuserons, car il ne sera pas dit qu'un pousse-caillou embêtera un officier d'artillerie. Dans ce temps-là, voyez-vous, l'artillerie était quelque chose, parce que le corps avait fourni l'empereur. Me voilà donc parti, moi et mes canonniers, et nous gagnons Klagenfurt. J'arrive le soir, et aussitôt que mes hommes sont gités, je me mets en grande tenue et je me range chez Ruska, point de Ruska du tout. « Mais où est le général ?» demandai-je à une manière d'aide de camp qui baragouinait un Français mêlé d'Italien. « Le général est dans une société, dans un cercle, au café à boire de la bière sous la piazza. » Je regarde mon homme en face, et je m'aperçois qu'il n'est pas ivre comme ses incohérences me le faisaient supposer. « Vous êtes étonné, » reprit l'aide-de-camp. « Mais s'il est là de si bon heure, c'est pour une petite difficulté quel général il a eu avec les habitanti. » « Perché, sono di humor poco contrariante le tedesche. Ces chiens-là ne se sont-ils pas avisés de ne più de reboire de la bière à le cercle vers lequel le général y était ?» En ce moment, nous fûmes interrompus par un roulement de tambour, après quoi le crieur de la ville lut en français d'abord, puis en allemand et en italien, une proclamation de Ruska, en vertu de laquelle il était enjoint à tous les négociants et notables habitants de Klagenfurt d'aller, comme par le passé, au cercle, pendant toutes les soirées, sous peine d'être taxés à une contribution extraordinaire. Ben, et comment le paieront-ils donc ? Dit le colonel du 20e qui se trouvait auprès de moi. Car je m'étais avancé pour écouter. Ce serait la quatrième qu'il lèverait sur ces pauvres diables. Ce compère-là est capable de les faire révolter pour se donner le plaisir de mitrailler une sédition populaire. Mais pourquoi n'allait-il plus au café, mon colonel ? Lui demandai-je. Le colonel me regarda. Ah, vous arrivez à ce que je vois, me répondit-il. Eh bien, voilà le fait. Ce diable de Ruska ne s'amusait-il pas le soir à allumer sa pipe au cercle devant ces pauvres gens avec les billets de florins qu'il leur arrachait le matin? Il faut que ce soit encore un bien bon peuple, ces Allemands, pour qu'aucun d'eux ne lui ait tiré un coup de pistolet. Heureusement, nous partirons demain, nous n'attendions que vous. Il paraît, lui dis-je, que votre général n'est pas commode. Oh, c'est un excellent militaire, répliqua-t-il, et il entend particulièrement la guerre que nous allons faire. Il a été médecin dans la partie de l'Italie qui avoisine les montagnes du Tyrol. Et il en connaît les routes, les sentiers, les habitants. Il est d'une bravoure exemplaire. Mais c'est bien le plus malicieux animal que j'ai jamais connu. S'il ne brûle pas les paysans de leur village, il faudra qu'il soit dans ses bons jours. » Le colonel s'éloigna en voyant un officier venir à nous. Je fus assez embarrassé de ma personne en me trouvant seul. Je pensais qu'il n'était pas convenable que j'allasse voir Ruska au cercle, et alors je revins à l'aide de camp, qui était toujours resté immobile sur le seuil de la porte, occupé à fumer son cigare. J'avais toujours rencontré son regard. Quand je jetai par hasard les yeux sur lui en causant avec le colonel, et quoique ce regard me parût aussi railleur que perfide, je le priai d'annoncer à son général ma visite pour la fin de la soirée, objectant la nécessité dans laquelle j'étais de prendre quelque chose, car je n'avais rien mangé depuis le matin. Mais un officier n'est pas aussi heureux que la bulle du pape. En campagne, il n'a pas d'heure pour ses repas. Il se nourrit comme il peut, et quelquefois pas du tout. Au moment où j'allais retourner à mon logement, j'entendis une grande rumeur dans le faubourg par lequel j'étais entré. Je demande à un soldat qui me parut en venir la raison de ce tumulte. Et il me dit que l'un de mes canonniers en était cause. Alors je fus forcé de me rendre sur les lieux pour savoir ce qui se passait. Il y avait des attroupements, composés de femmes principalement, qui paraissaient en colère, criaient et parlaient toutes ensemble. C'était comme dans une basse-cour, quand les poules se mettent à piailler. Au milieu du faubourg, je vis une grande et belle fille autour de laquelle on s'attroupait. Quand elle m'aperçut, elle fendit la presse et vint à moi. Elle était furieuse, elle parlait avec une volubilité convulsive. Elle avait des couleurs, les bras nus, la gorge haletante, les cheveux en désordre, les yeux enflammés, la peau mate. Elle gesticulait avec feu. Oh, elle était superbe. C'était une des plus belles colères que j'ai vues dans ma vie. Là, je sus la cause de cette émeute. Mon fourrier était logé chez le père de cette fille, et il paraît que, en la trouvant à son goût, il avait voulu la cajoler, mais qu'elle s'était brutalement défendue. Alors, mon diable de canonnier, en provençal, il se nommait Lobbé. C'était un petit homme à cheveux noirs, bien frisés, qu'on avait appelé dans la compagnie La Perruque. La Perruque, donc, par vengeance, se faisait servir par le père et la mère de cette fille, et comme il était assis sur un fauteuil très élevé, Il avait mis chacun de ses pieds sur un escabeau de chaque côté de la table, et pendant son repas, il avait forcé la mère et le père, qui était un homme à cheveux blancs, de tourner les étoiles de ses éperons. Il dînait gravement, ayant à ses pieds les deux vieillards agenouillés, occupés à faire aller les molettes. Cette fille, ne pouvant pas diriger cet affront, essayait d'ameuter le quartier contre les Français. Lorsque j'eus compris le sujet de ses plaintes, je m'empressai d'aller au logement de la perruque, et je le vis en effet assis comme un pacha, regardant les deux vieillards, bons Allemands, qui faisaient consciencieusement aller les éperons. Je n'oublierai jamais le geste de la fille, quand en entrant avec moi, elle me montra ses parents. Elle avait les larmes aux yeux, et me dit d'un son de voix guttural en allemand, « Sind, voyez !»« Allons donc, l'obé, finissez, » dis-je à mon canonnier. « Que diable vous mériteriez d'être puni ? Cela ne se fait pas !» Les deux vieillards continuaient toujours. « Mais mon lieutenant, » me dit la perruque, « tenez, regardez-les. Ça les contrarie pas, ça les abuse. » Je faillis rire. En ce moment, un gros homme, bourgeonné, la face rouge et le nez bulbeux, entra. À l'uniforme, je reconnus le général Ruska. « Bien, bien, canonnier !» s'écria-t-il. « Voilà 10 florins pour t'encourager à établir la domination française sur ces chiens-là. » Et il lui jeta 10 florins. « Il me semble, mon général, lui dis-je avec fermeté quand nous sortîmes, que si vous m'avez entendu, la discipline militaire est compromise. Il m'est fort indifférent, si cela vous plaît, que mon fourrier fasse tourner ses molettes, mais puisque je lui avais ordonné de cesser et qu'il est sous mes ordres... « Oh !» dit-il en m'interrompant, « tu es sorti de cette école où l'on raisonne. Ah, je vais t'apprendre à clocher envers les boiteux. » Quels sont vos ordres ? Lui demandai-je. Viens les prendre ce soir à 8 heures. Et nous nous quittâmes. Ce commencement de relation ne promettait rien de bon. À 8 heures, après avoir dîné, je me présentai chez le général, que je trouvais buvant et fumant, en compagnie de son aide-de-camp, du colonel et d'un Allemand qui paraissait être un personnage de Klagenfurt. Puska me reçut civilement, mais il y avait toujours une teinte d'ironie dans son discours. Il m'invita fort courtoisement à boire et à fumer. Je ne bus guère que 2 verres de punch et fumai 3 cigares. « Demain, nous partirons à 7 heures et devons être en vue de Brixen dans la journée. Il faut entamer ces gens-là vivement. » Je me retirai. Le lendemain, je crus m'éveiller à 6 heures. Il était 9 heures passées. Puska m'avait sans doute mis quelque drogue dans mon verre, et je fus au désespoir en apprenant qu'il s'était mis en bataille à 6 heures du matin et qu'il avait 3 heures de marche en avance. Mon hôte, comprenant que j'en voulais à Puska, me proposa de me donner les moyens d'arriver à Brixen avant lui. La tentative était audacieuse, car il fallait m'embarquer dans des chemins de traverse où je pouvais rester, mais, jeune et dépité comme je l'étais, je fis mon va-tout. Cependant, je ne voulus rien négliger. Je communiquai mon entreprise à mes sous-officiers, qui crurent leur honneur aussi bien engagé que le mien. Nous mêlâmes du vin à l'avoine de nos chevaux, et les bons Allemands, apprenant que nous voulions jouer un tour au Ruska, nous fournirent 4 guides chargés de nous préserver de tout malheur. Effectivement, Luskan nous trouva reposés et en bataille en avant de Brixen, l'attendant avec insouciance. « Comment, messieurs, vous êtes partis avant nous ?» dit le général. « Oh, vous me paierez cela, lieutenant » ajouta-t-il en me regardant. « Mon général, lui dis-je, vous ne m'avez pas ordonné de vous accompagner. Si vous vous en souvenez, votre ordre a été de regarder Brixton comme le point de notre ralliement. » Il ne souffla pas mot, mais je vis qu'il faudrait jouer serré avec ce vieux singe-là. Nous entrâmes en campagne au-delà de Brixton. J'avoue que je n'avais jamais vu faire la guerre ainsi. Nous battions la campagne en visitant tous les villages, les chemins, les champs. Vous eussiez dit une chasse. Les soldats rabattaient les paysans comme du gibier sur la principale route suivie par le général. Et quand ils s'en trouvaient en quantité suffisante, Ruska passait tous ces malheureux en revue, en leur ordonnant de tendre leur main gauche. Puis, au seul aspect de la paume de cette main, il faisait signe, remuant la tête, d'en séparer certains des autres, et il laissait le reste libre de retourner à leurs affaires. Puis aussitôt, sans autre forme de procès, il fusillait ce qu'il avait ainsi trié. La première fois que j'assistais à cette singulière enquête, je priai Ruska de m'expliquer ce mode de procédé. Alors, à quelques pas de l'endroit où nous étions, il aperçut dans un buisson je ne sais quel vestige et il le fit cerner. Le buisson fouillé, les soldats trouvèrent dans une espèce de trou deux hommes armés de carabines qui attendaient sans doute que nous fussions passés afin de tuer nos traînards. Avant de les faire fusiller, Ruska me montra leur main gauche. Dans ce pays, les chasseurs ont l'habitude de verser la poudre nécessaire pour la charge de leur carabine dans le creux de leur main. Et la poudre y laisse une empreinte assez difficile à distinguer, mais que l'œil de Ruska savait y voir avec une grande dextérité. Dès l'enfance, il avait observé ce singulier diagnostic, et il lui suffisait de voir les mains des paysans pour deviner s'ils avaient récemment fait le coup de fusil. Le second jour, nous rencontrâmes un vieillard septuagénaire au moins, perché sur un arbre et occupé à l'émonder. Ruska le fit descendre et lui examina la main gauche. Par malheur, il crut apercevoir le signe fatal, et quoique le pauvre homme parût bien innocent, il ordonna de l'attacher à l'affût d'un canon. Ce malheureux fut obligé de suivre, et nous allions au petit trot. De temps en temps, il gémissait, et les cordes lui enflaient les mains. Il se trouva bientôt dans un état pitoyable. Ses pieds saignaient, il avait perdu ses sabots, et j'ai vu tomber de grosses larmes de sang de ses yeux. Nos canonniers, qui avaient commencé par rire, en eurent compassion, et vraiment il y avait de quoi avoir ce vieillard en cheveux blancs traîné pendant les dernières lieues comme un cheval mort. On finit par le jeter sur le canon, et comme il ne pouvait pas parler, il remercia les soldats par un regard à tirer des larmes. Le soir, lorsque nous bivouaquâmes, je demandai à Ruska ses ordres relativement à ce vieillard. « Fusillez-le !» me dit-il. « Mon général, répondis-je, vous êtes le maître de sa vie, mais si je commande à mes canonniers de tuer cet homme, ils me diront que ce n'est pas leur métier. »« C'est bon, » répliqua-t-il en m'interrompant. « Gardez-le jusqu'à demain matin et nous verrons. »« Je ne me refuserai pas à le garder, » dis-je, « mais je ne veux pas en répondre. » Et je sortis de la maison où était Ruska, sans entendre sa réplique, mais je sus plus tard qu'il m'avait cruellement menacé. En ce moment, je partis, malgré tout l'intérêt que promettait ce début. La pendule marquait minuit et demi. J'étais près de Saint-Germain-des-Prés et je demeure à l'observatoire. Un jour, j'aurai la suite de Ruska. Le nom me fait pressentir quelques drames, car je partage, relativement au nom, la superstition de M. Gauthier Chaudy. Je n'aimerais certes pas plus une demoiselle qui s'appellerait Petronille ou Sacontala, fut-elle jolie. Ma femme se nomme Rose Vertu, me dit l'officier de l'université qui faisait route avec moi. Je le crois bien, répliquai-je. Mademoiselle Mars a nom Hippolyte, et vous, monsieur, lui demandai-je. Moi, oh, Sébastien. Oh, c'est un martyr. Et vous êtes sans doute très heureux en ménage? Mais oui. Nous étions arrivés. Ce fragment de conversation est sincère et véritable. Je puis affirmer que, sauf de légères inexactitudes bien pardonnables, et qui n'ont adultéré ni le sens ni la pensée, tout ceci a été dit par des hommes d'un haut mérite. N'est-ce pas un problème intéressant à résoudre pour l'art en lui-même que de savoir si la nature textuellement copiée est belle en elle-même? Nous avons tous été fortement émus. Un lecteur le sera-t-il? Nous allons voir là Marguerite de Schaeffer et nous ne faisons pas attention à des créatures qui fourmillent dans les rues de Paris, bien autrement poétiques, belles de misère, belles d'expression, sublimes créations, mais en guenilles. Aujourd'hui, nous hésitons entre l'idéalisation et la traduction littérale des faits, des hommes, des événements. Choisissez. Voici une aventure où l'art essaye de jouer le naturel.